mauvais embrun d'humeur. Vendredi 4 et samedi 5 mai 2012. Amis auditeurs inquiets et tendus, bonjour. Le maire au micro pour commenter l'actualité. Mais pas question de parler des élections. Samedi, à l'heure de la rediffusion, on sera à moins de 24 heures du second tour et on entrera dans la période de réflexion. On pourra réfléchir, mais plus influencer. Alors d'accord, n'en parlons pas, intéressons-nous plutôt à la vie artistique du pays. Je vous propose, dans le cadre de ce sujet sur la vie artistique du pays, la lecture d'une lettre écrite par Philippe Torreton à Jean Ferrat. Jean Ferrat qui est mort, mais il lui écrit au ciel, c'est une figure littéraire, chers auditeurs. Alors certes, je ne la lirai pas avec le même talent que ce que lirait Torreton lui-même, mais je vais faire ce que je peux, et on la coupera d'une chanson de Jean Ferrat, cette petite lettre. Deux points, ouvrez les guillemets, voilà ce qu'écrit Philippe Torreton à Jean Ferrat. Jean, j'aimerais te laisser tranquille au repos dans cette terre choisie. J'aurais aimé que ta voix chaude ne serve maintenant qu'à faire éclore les jeunes pousses, plutôt au printemps. La preuve, j'étais à Intrègue il n'y a pas si longtemps et je n'ai pas souhaité faire le pèlerinage. Le repos, c'est sacré. Pardon de t'emmerder, mais l'heure est grave, Jean. Je ne sais pas si là, d'où tu ne reçois que le Figaro, comme dans les hôtels qui ne connaissent pas le débat d'idées. Je ne sais pas si tu vois tout de là-haut ou si tu n'as que les titres d'une presse vendue aux argentiers proches du pouvoir pour te tenir au parfum, mais l'heure est grave. Jean, écoute-moi. Écoute-nous, écoute cette France que tu as si bien chantée, écoute-la craquer, écoute-la gémir, cette France qui travaille dur et rentre crevée le soir, celle qui paye et répare sans cesse les erreurs des puissants par son sang et ses petites économies, celle qui meurt au travail, qui s'abîme les poumons, celle qui se blesse et qui subit des méthodes de management, celle qui s'immole devant ses collègues de bureau, celle qui se shoote aux psychotropes, celle à qui on demande sans cesse de faire des efforts alors que ses nerfs sont déjà élimés comme une maigre ficelle, celle qui se fait virer à coups de charter, celle que l'on traque comme d'autres en d'autres temps que tu as chanté, celle qu'on fait circuler à coups de circulaire, celle de ces étudiants affamés ou prostitués, celle de ceux-là qui savent déjà que le meilleur n'est pas pour eux, celle à qui on demande plusieurs fois par jour ses papiers, celle de ces vieux pauvres alors que leur corps témoigne encore du labeur, celle de ces réfugiés dans leur propre pays qui vivent dehors et à qui l'on demande par grand froid de ne pas sortir de chez eux. De cette France qui a mal aux dents, qui se réinvente le scorbut et la rougeole, cette France de bigleux trop pauvre pour changer de lunettes, cette France qui pleure quand le ticket de métro augmente, celle qui, par manque de superflu, arrête l'essentiel. Jean, rechante quelque chose, je t'en prie, toi qui en voulais à Dormesson de déclarer déjà dans le Figaro qu'un air de liberté flottait sur Saïgon. Entends-tu, dans cette campagne, mugir ce sinistre géant qui ose déclarer que toutes les civilisations ne se valent pas. Qui pourrait le chanter maintenant? Pas le rock français qui s'est vendu à la première dame de France. Écris-nous quelque chose à la gloire de Serge Letchimy, qui a osé dire devant le peuple français à quelle famille de pensée appartenait Guéant, et à tous ceux qui le soutiennent. Petite pause, maintenant, dans cette longue lettre, chers auditeurs, avec une chanson de Jean Ferrat.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenants de son exil. Des enfants de 5 ans travaillant dans les mines. Celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille. Ma France, Picasso tient le monde au bout de sa palette. Des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France, leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une. Celle qui pète toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain. Ma France, qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France,
retour donc à cette lettre que Philippe Torreton envoie à Jean Ferrat. On en était resté à l'avis que Torreton avait d'un certain Claude Guéant. Il continue ainsi. Deux points, ouvrez les guillemets. Jean, l'humain ne se vend plus aux bouches des métros. C'est Bolloré qui a remporté le marché avec ses gratuits. Maintenant, pour avoir l'info juste, on fait comme les poilus de 14-18 qui ne croyaient plus à la propagande. Il faut remonter aux sources soi-même. Il nous faut fouiller dans les blogs. Tu l'aurais chanté même chez Drucker, cette presse insipide, ces journalistes fantoches qui se font mandater par l'Élysée pour avoir l'honneur de poser des questions préparées au président. Tu leur aurais trouvé des rimes sévères et grivoises avec « vendu ». Jean, l'argent est sale, toujours, tu le sais. Il est taché entre autres du sang de ces ingénieurs français. La justice avance péniblement grâce au courage de quelques-uns et l'on ose donner des leçons de civilisation au monde. Jean, l'Allemagne n'est plus qu'à 1 euro de l'heure du STO. Et le chômeur est visé, insulté, soupçonné. La Hongrie retourne en arrière ses voiles noires gonflées par la laine fétide des renvois populistes de cette droite décomplexée. Jean, les montagnes saignent, son or blanc dégouline, torrent de boue. L'homme meurt de sa fiente carbonée et irradiée. Le boulet n'est plus aux hormones, mais aux antibiotiques, et nourri au maïs transgénique. Et les écologistes n'en finissent tellement pas de pas savoir faire de la politique. Le paysan est mort. Et ce n'est pas les numéros de cirque du Salon de l'Agriculture qui vont nous prouver le contraire. Les cow-boys aussi faisaient tourner les derniers indiens dans les cirques. Le paysan est un employé de maison chargé de refaire les jardins de l'industrie agroalimentaire. On lui dit de couper, il coupe. On lui dit de tuer son cheptel, il le tue. On lui dit de s'endetter, il s'endette. On lui dit de pulvériser, il pulvérise. On lui dit de voter à droite, il vote à droite. Fini les jacqueries. Jean, la commune n'en finit pas de se faire massacrer chaque jour qui passe. Quand chantera-nous le temps des cerises? Elle voulait le peuple instruit, ici et maintenant on le veut soumis, corvéable, vilipendé quand il perd son emploi, bafoué quand il veut prendre sa retraite, carencé quand il tombe malade. Ici, on massacre l'école laïque, on lui préfère le curé. On cherche l'excellence comme on chercherait des pépites de hasard. On traque la délinquance dès la petite enfance, mais on se moque de savoir, du savoir et de la culture partagée. Jean, je te quitte. Pardon de t'avoir dérangé, mais mon pays se perd et comme toi, j'aime cette France. Je l'aime ruisselante de rage et de fatigue. J'aime sa voix rauque de trop de lutte. Je l'aime intransigeante, exigeante. Je l'aime quand elle prend la rue ou les armes, quand elle se rend compte de son exploitation, quand elle sent la vérité comme on sent la sueur, quand elle passe les Pyrénées pour soutenir son frère ibérique, quand elle donne d'elle-même pour le plus pauvre qu'elle, quand elle s'appelle en 54 à partant d'hiver, ou en 40 à l'approche de l'été. Je l'aime quand elle devient universelle, quand elle bouge avant tout le monde, sans savoir si les autres suivront, quand elle ne se compare qu'à elle-même et puise sa morale et ses valeurs dans les sacrifices de ses morts. Jean, je voudrais tellement t'annoncer de bonnes nouvelles au mois de mai. Je t'embrasse, et c'est signé Philippe Torreton. Moi aussi j'aime bien la France, comme Kent qui l'a chanté il y a quelque temps d'ailleurs.
J'aurais préféré une chanson d'amour, sans un mot déplacé, tout en détour, baigné d'insouciance et sourire en fleurs. Mais j'ai comme un haut le cœur. J'aime un pays qui a le paf tout ramolli. Dans ce pays, il y a des chanteurs pour l'Arménie, mais il y a surtout un paquet de bénis, oui, oui. Et quand ça chie, on n'est pas beaucoup dans le maquis. J'aime un pays pour la liberté d'expression, à condition que ça puisse rapporter des ronds, tout est permis. De Jean-Marie à Khomeini, aussi tant pis pour ceux qui croient à tout ce qu'on dit. J'aurais préféré une chanson d'amour, sans un mot déplacé, tout en détour, baigné d'insouciance et sourire en fleurs. Mais j'ai comme un haut le cœur. J'aime un pays où tout le monde a la parole, surtout les jeunes qui aiment bien le rock'n'roll. Celui qui brille, celui qui mousse et fait des bulles, belle jeunesse qui rit quand on l'enfume. Ce pays, j'y peux rien, c'est dans ma nature. Je dis tout ça pour faire le malin, ça c'est sûr. Tant pis pour moi si après ça on est en brouille. Mais mon amour, tu sauras qu'au moins j'ai les bouts. Ce pays, j'y veux rien, c'est dans ma nature. J'aime ce pays, j'y veux rien, c'est dans ma nature. J'aime ce pays.
Comment vous dites quoi, les auditeurs? J'aurais, moi, contrairement à la règle, parlé d'élection? Ah, mais non, c'est pas moi, c'est Philippe Torreton. Ah, et puis, il parle pas d'élection. Et quand il dit qu'il veut une bonne nouvelle au mois de mai à donner à Jean Ferrat, il ne dit pas que c'est le départ de Sarkozy, la bonne nouvelle. Non, il ne le dit pas. Si par contre, vous, auditeurs mal intentionnés, vous déduisez que c'est ça la bonne nouvelle qu'il souhaite annoncer à Ferrat, c'est votre problème. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous qui le déduisez. Bon, et puis quand même, quand même. Certes, on ne peut pas parler des élections, mais bon, on peut peut-être amener quelques précisions sur quelques sujets. Tiens, juste un petit truc en passant. Avez-vous vu comment les éléments de langage, comme on dit, de l'UMP, ont été bien rodés et répétés à l'envi sur toutes les télé et radios, et même sur le net, où ont circulé pas mal de mails et des infos formatées et à années à la manière de perroquet pré-programmées. En bonne place parmi ces éléments de langage, il y avait, deux points ouvrez les guillemets, Corrèze, département le plus endetté de France, Hollande, président de la Corrèze, on va quand même pas élire comme président de la République le président du département le plus endetté du pays. Ouais, ça c'est les éléments de langage UMP, sauf que, petite précision concernant la fameuse dette colossale de la Corrèze, car à trop vouloir faire de la situation catastrophique du département le plus endetté de France un argument de campagne, l'UMP a semble-t-il oublié quelques réalités. La dette de la Corrèze a été multipliée par 30 en 5 années sous Jean-Pierre Dupont, UMP, et c'est sous le conseil général UMP que la Corrèze est devenue le département le plus endetté de France. Hollande a été élu président du conseil général de Corrèze parce que ce département était en faillite. Depuis son arrivée, le solde primaire, autrement dit avant intérêt de la dette, est positif. La Corrèze continue cependant à s'endetter très légèrement, uniquement à cause du poids des intérêts de la dette issus de la gestion UMP de Jean-Pierre Dupont. Le premier budget non social du conseil général de Corrèze est le musée Chirac, qui coûte chaque année 8 fois et demi le prix des entrées facturées. Ce gouffre financier est un héritage de la gestion UMP de Jean-Pierre Dupont et de Bernadette Chirac. Hollande a prouvé en Corrèze qu'il savait redresser la barre en prenant la présidence du département le plus endetté de France et en présentant des budgets excédentaires hors intérêt de la dette. C'est la preuve d'une bonne gestion comparée à celle de Sarkozy pour la France, qui a toujours présenté des budgets déficitaires, même hors intérêt de la dette, et qui a même présenté 8 des 10 budgets les plus en déficit depuis 1946 dans les 10 dernières années de pouvoir UMP, avec bien sûr le podium des 3 plus gros déficits, tous sous la présidence de Sarko. Voilà, juste pour remettre les choses à leur place. Je ne sais pas s'il faut voter Hollande ce dimanche, et de toute façon, je n'ai pas le droit de le dire, même si je le pensais. Simplement, si vous pensez qu'il ne faut pas voter Hollande, pensez-le et faites-le pour de bonnes raisons. Celles qui sont utilisées par l'UMP sur la gestion catastrophique de la Corrèze ne se tiennent pas. Et quand ils utilisent ces arguments, ils font comme Clarica dans la chanson qui suit.
Comme je respire, je mens mon élixir. C'est le vent, ou rien pour dire. Je mens, l'important c'est mentir vrai. Comme je respire, je mens, je vais, j'inspire l'air du temps. Pourquoi dire vrai quand, vraiment, la vie se vit mieux, semblant la vie comme elle est. Elle est tellement fade, alors moi je l'ai gaie. Avec mes salades, je mens, je mens, je mens à Samir, à maman, je mens pour de rire, pour du vent, sur la Torah, sur le Coran, je mens comme je respire, je mens au mari, à l'amant, je mens au lit, sur le divan, je m'en mêle parfois, ça dépend. Pour le mieux ou le pire, la vie comme elle est tellement fade, alors moi je l'ai gaie. Avec mes salades, je mens comme un dentiste, je mens comme Dieu existe, je me cache, je triche, je mens et je m'en fiche, je m'enterre ou m'en tire, je mens pour un empire. C'est vrai, je vous assure, je mens, je vous le jure.
Quand c'est Clarica qui ment, ça fait une très jolie chanson. Quand c'est Sarkozy et ses copains, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, donc, toujours pour éviter de polluer la période de réflexion, les 24 heures qui précèdent le scrutin, je continue à ne pas parler des élections, en remarquant la position de Marine Le Pen, qui justement ne dit rien. Elle votera, mais pour aucun d'un des deux candidats. Elle l'a annoncé lors de son 1er mai. Parce que vous avez bien vu que chacun a eu son 1er mai. La gauche, comme d'habitude, largement majoritaire au nombre de défilés, partis et syndicats mènent dans la main. Le FN, comme depuis quelques années, sous Jeanne d'Arc. Se réunir sous une statue de Pucelle, il fallait quand même le faire pour ce parti. Et le petit Nicolas, aussi, a fait son 1er mai. J'y reviens pas, j'en ai parlé la semaine dernière de ces bêtises avec le vrai travail. Surtout que maintenant, il conteste l'expression, il conteste tout de toute façon. La couverture du dernier numéro des dossiers du Canard Enchaîné résume assez bien la situation, je trouve. Ce dossier est consacré au bilan de Sarkozy. On y voit un dessin de Cabu, où un Sarko étiqueté candidat tente d'étrangler un autre Sarko étiqueté président, en lui disant, attention à la prononciation, « Cache-toi, pauvre con !» Et voilà. Il s'agit de ne surtout pas parler du bilan, donc n'en parlons pas, puisque de toute façon, on n'a pas le droit d'en parler aujourd'hui. Que dire de plus pour ne pas parler des élections, puisqu'à moins de 24 heures du scrutin, on n'a pas le droit de parler des élections? Eh bien justement, là, ça fait un petit moment qu'on en parle. Il faudrait maintenant que ça débouche sur quelque chose et qu'on passe à autre chose. En espérant que l'on ne se prenne pas un coup de Trafalgar d'ici là. Vous savez si dans les derniers moments de la semaine, l'actualité ne nous a pas réservé quelques surprises. Moi, à l'heure où j'enregistre, je ne sais pas quel coup tordu nous aura imaginé Sarko, ou pire, quelle connerie se seront inventées les gens de gauche. Parce que si le pire n'est jamais certain, il est toujours possible. Pourquoi pas une annonce de l'envie de nommer Strauss-Kahn Premier ministre en cas de victoire? Impossible? Mais putain, quand Julien Drey décide de fêter son anniversaire avec ses potes, qu'il le fait rue Saint-Denis en invitant Strauss-Kahn, il cherche quoi? Un poste de ministre de Sarko en cas de défaite de Hollande? Sérieux? Strauss, rue Saint-Denis, le type étiqueté Macoro dans la rue, célèbre dans le monde entier pour ses activités de prostitution. Ça serait fait exprès, ça serait un coup de communication négative très réussi. Et oh, Julien Drey et les copains là, si vous voulez pas gagner, dites-le au lieu de tenter des coups fourrés comme ça. Bon, vous me direz, de l'autre côté, ils ont Kadhafi et l'affaire Karachi. Bon, c'est pas mal non plus ça. Hein. Non, décidément, tout est possible d'ici les élections. Enfin, on verra bien ce que ça donnera. Inch'Allah, comme dirait Benoît XVI. Tiens, ça me plaît bien ce clin d'œil, ça. Inch'Allah, comme dirait Benoît XVI. On va se quitter là-dessus, tiens. Pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de boire des coups, de faire des câlins et de traquer la connerie. Et rappelez-vous que Hollande ou Sarko, la mobilisation devra perdurer après les élections. Soit pour aider les réformes de l'un à se faire, soit pour résister aux contre-réformes de l'autre. Auquel cas, il faudra écouter les conseils des FEL. Un vent de changement souffle dans les rues, l'entendez-vous?
Chevelu, à tout ce qui nous lie, quand la nuit remue. fond. C'est dans l'air comme un chant qui s'étrangle, que d'un pavé de fortune contre le tintamarre du pognon. À tout moment la rue peut aussi dire non.